France Inter. Le 18-20, Fabienne Saint-Esse.
Le Conseil de Paris débattra vendredi de l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques en vue de les interdire d'ici à 2020. Le ministère de l'Agriculture a promis des mesures sur le bien-être animal. Le parti animaliste a fait aux Européennes un score qui a dépassé certaines listes dites traditionnelles en récoltant plus de 500 000 voix. Il est question d'interdire la corrida aux mineurs et c'est une proposition de loi. La question animale est devenue un vrai sujet politique et ce ne sont plus seulement les associations militantes qui portent ces combats. Elles ont largement contribué bien sûr, mais peut-être que leur plus belle victoire au fond, c'est que leurs préoccupations sont entrées dans le champ politique. N'a-t-on pas vu Yannick Jadot s'enfermer dans une cage en octobre de l'année dernière pour dénoncer les souffrances animales et les souffrances des animaux d'élevage? Notre mode de consommation lui aussi est remis en cause et quand on pousse un peu plus loin la question si l'animal a cessé d'être un meuble très très tardivement, c'était il y a quelques années seulement, la question de donner une personnalité juridique à l'animal se pose. Mais alors, de quoi parle-t-on? Tout le monde peut comprendre évidemment que l'écrasement des poussins, qui va être d'ailleurs interdit progressivement, est particulièrement cruel. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose d'un lion dans un cirque, d'un cheval qui fait des acrobaties? À quel moment être un animal d'élevage, être un animal et être en élevage sont deux choses incompatibles? Est-ce qu'on peut classer les animaux dans différentes catégories ou faudrait-il des textes spécifiques en fonction finalement de l'animal? Bref, est-ce qu'on va trop loin ou est-ce qu'on ne va pas assez loin? Est-ce que toutes ces questions doivent être mise à plat parce que c'est le moment. Essayons de faire un bout de chemin ensemble ce soir pour essayer de savoir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Amandine, c'est vous la première. Bonsoir Amandine et bienvenue.
Bonsoir.
Au téléphone sonne.
Merci. Oui, donc moi je suis l'association présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis et nous ça fait 4 ans que notre association s'est mobilisée activement pour que la ville de Paris s'engage enfin publiquement contre l'asservissement des animaux dans les cirques. Donc aujourd'hui c'est vraiment une avancée importante que le Conseil de Paris s'apprête à faire puisque la capitale de la France appelle le gouvernement à mettre un terme définitivement à la captivité des animaux dans les cirques. Et en effet il y a urgence parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, les attentes de la population en matière de conditions animales sont très forte. Il y a urgence de mettre un terme aux pratiques les plus cruelles qu'on fait subir aux animaux et les élus, pour le moment, ne prennent pas leurs responsabilités et ne sont pas du tout à l'écoute des attentes de la population. Donc nous, on espère vraiment que la ministre Elisabeth Borne va interdire prochainement l'asservissement des animaux dans les cirques, puisque ça va être des mesures qui vont être rendues très prochainement. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que là, on est dans un contexte important, puisque ça fait quasiment 2 ans, jour pour jour, que la tigresse Mévie s'est évadée en plein Paris du cirque qui l'emprisonnait et qui a été abattu par son dresseur. Donc les animaux sont clairement malheureux dans les cirques, ils sont emprisonnés, ils veulent s'évader, il est vraiment temps d'y mettre un terme.
Merci pour cette entrée en matière, Amandine, parce que vous avez aussi, au-delà de parler simplement du cirque, balayé plusieurs choses qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir au téléphone. Sonne avec nous pour en parler jusqu'à 20h. Jocelyne Porcher est là, bonsoir. Vous êtes sociologue à l'INRA, vous avez écrit notamment « Cause animale, cause du capital », c'est aux éditions Bordelot, et vous êtes à Montpellier en duplex avec nous. On remercie au passage nos amis de Montpellier de vous accueillir, et bonsoir Éric Diard.
Bonsoir.
Vous êtes député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, vous êtes dans le groupe d'études conditions animales de l'Assemblée, défenseur de la cause animale. L'un après l'autre, moi, ça m'intéresse cette histoire de cirque. J'ai l'impression, je vais commencer par vous, Jocelyne Porcher, que il y a une sorte de changement chez les gens aujourd'hui, qu'on a moins envie de voir ces animaux dans les cirques. C'est en tout cas ce que semble-t-il disent les sondages. Je vais poser volontairement la question provocatrice. Les auditeurs pourront réagir. Est-ce qu'on est forcément malheureux quand on est un animal de cirque, Jocelyne Porcher?
Alors, je pourrais pas le dire parce que je suis pas un animal de cirque.
Mais moi,
ce qui me pose problème, c'est le fait de décider de l'avenir des cirques et de la place des animaux dans les cirques à partir du prisme de l'exploitation et sans poser la question du travail. Et ça, c'est très différent, parce que si on considère que un animal qui travaille dans un cirque, il est forcément exploité, voilà. Et d'ailleurs, en ce moment, on dit la même chose d'une vache, on dit la même chose d'un cochon, on dit la même chose des chevaux. Là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on donne la réponse avant de poser la question. Qu'est-ce que les animaux font avec nous, en fait? Qu'est-ce que c'est qu'un animal sauvage? Les animaux dans les cirques, la plupart, ils sont nés dans les cirques, ils sont pas sauvages, ils sont apprivoisés. Ce qui fait que l'espèce, elle est sauvage. C'est pas le tigre, il est sauvage, mais l'animal qui travaille avec son humain, il est apprivoisé. Et oui. Donc, je pense que voilà, la non prise en compte de la question du travail. Elle aboutit à ce qu'il n'y ait pas de discussion et qu'il y ait des prises de position que moi je trouve non pas politiques mais dépolitisées.
Vous vous dites que Jocelyne Porcher que l'animal travaille au sens propre du terme, il travaille, c'est son job en quelque sorte en fait.
Voilà, exactement.
En échange de quoi?
En échange de la même chose que nous, c'est-à-dire de la reconnaissance, de la vie partagée. De l'expression de potentialité, par exemple. Alors, c'est vrai, je pense, pour les animaux dans les cirques et pour les animaux dans les spectacles en général, c'est-à-dire que les animaux sont amenés à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait sans nous. C'est-à-dire, alors c'est vrai, par exemple, des chevaux, tous ces animaux qui sont au travail avec nous, ils font des choses qui dépassent largement leur comportement naturel. Ça peut être intéressant, par exemple, un chien policier, un chien d'aveugle, mais c'est tout ce qu'il fait, il a pris grâce au travail et ça l'intéresse. Et je voudrais être sûr que quand on exclut les animaux des cirques et qu'on les remplace par des artefacts, on rend service aux animaux. Qu'est-ce qu'on fait de ces animaux, du reste, en plus?
Alors, la question de qu'est-ce qu'on en fait, effectivement, ce sera une question à imaginer après. Éric Diard, je vous voyais réagir. Moi, la question que je me pose, c'est quand on parle des animaux de cirque, on pense aux lions, on pense aux éléphants qu'on fait monter sur un plot ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça existe encore, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est pareil avec les chevaux, par exemple, quand on... Un spectacle comme celui de Barabbas, est-ce que c'est aussi une manière de contraindre la de Barthabas, est-ce que c'est une manière de contraindre la condition animale?
Écoutez, moi je vais être d'abord pragmatique. Il y a des animaux qui sont dressés, des animaux d'élevage, et il y a des animaux sauvages. Et le tigre ne vit pas en France, le cheval oui, l'éléphant ne vit pas en France, le cheval oui, idem pour le lion. Donc ces animaux-là ne sont pas faits pour être dans les cirques. Ils ont été dressés, ils vivent en cage, alors que c'est des animaux qui vivent naturellement en totale liberté. Et je pense que donc il y a une volonté populaire qui me semble légitime de ne plus vouloir voir ces animaux dans les cirques. Un lion n'a rien à faire dans notre pays.
Et du coup, ça nous amène à la question de Véronique. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Eh bien justement, la question qui venait aussi d'être formulée, c'est ok, on interdit les animaux dans les cirques, mais et du jour au lendemain, pratiquement, puisque 2020, et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que font les gens de de tous leurs animaux? Donc il faut aussi, je dirais, faire une concertation avec les cirques. Est-ce que peut-être aussi il doit y avoir des labels pour les cirques qui feront des efforts, qui ont investi, qui ont des infrastructures, qui sont capables de donner un bien-être aux animaux? Alors la question, bien sûr, des lions et des animaux sauvages, si quelqu'un va ouvrir de façon méchamment les cages des animaux qui se retrouvent effectivement dans la belle nature. Mais moi, j'ai vu par exemple un cirque qui était passé, que je suis allée interroger et poser les questions par rapport à leur tigre. Les tigres étaient élevés, étaient faits depuis qu'ils étaient bébés avec les gens du cirque. Ils étaient remarquablement bien entretenu, ce qui permettait aussi de faire la promotion de la sauvegarde des tigres dans la nature. De toute façon, dans la nature, il n'y a plus de place pour les animaux. Il n'y en a plus.
Alors c'est peut-être
y a
un
plus
peu...
de place. Les hommes ont pris tellement de place qu'il n'y en a plus.
Alors,
c'est la grosse question. Mais surtout, la question, c'est qu'un animal ne doit pas être considéré comme un bien meuble et doit être respecté, que ça soit en élevage, que ça soit pour vivre avec eux, ça doit être un respect de l'animal.
Et alors,
je dédie cette, puisqu'on parlait de chevaux, je dédie cette interview à Lester, qui était mon cheval, mon poney, et qui est décédé hier.
Ben voyez, comme et... quoi, Véronique, merci beaucoup pour votre question. Alors, je vais vous poser d'abord la question à vous, Éric Diard, la question directe de Véronique, qu'est-ce qu'on fait à partir de 2020, comment ça marche?
Alors, 2020, c'est une sortie, si vous me permettez l'expression, un sifflet, c'est-à-dire que du jour au lendemain, voilà, à partir de 2020, on décide de ne plus introduire des animaux sauvages dans le cirque. Donc, ça va se, c'est une sortie qui se fait progressivement, mais surtout, ce qu'il faut laisser, moi, je me pose la question, que deviennent ces animaux une fois qu'ils ne sont plus en capacité d'être dans les cirques? Donc, il y a déjà des secteurs où ils peuvent vivre en France, il y a en semi-liberté, donc il faut penser, j'allais dire, à leur retraite, à eux également.
Jocelyne Porcher, moi, il y a une chose que je trouve intéressante dans la question qu'on vient d'entendre. Notre auditrice a parlé de respect. Et au fond, c'est comme si, désormais, on avait le sentiment que le respect vis-à-vis de l'animal ne pouvait passer que par sa non-domestication, au fond, son non-travail, sa non-interaction avec l'homme. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on va trop loin là-dessus, selon vous?
Ah oui, oui, à mon sens, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, justement, mais c'est vraiment la question du travail qui est centrale. Parce que si on dit que tout travail avec les animaux, que ce soit avec les chevaux, que ce soit avec les éléphants dans un cirque, relève de l'exploitation, bah, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à libérer les animaux. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, on vit sans animaux de ferme, on vit sans chevaux, on vit sans animaux dans les cirques, et je le redis, on vit avec des artefacts dans ce cas-là. Alors, c'est vrai que c'est, il y a aussi, moi, je pense, la question de la culture, hein, parce que, comment déstructurer comme ça les cirques, enfin, décider de les déstructurer comme ça, aussi brutalement, là, comme l'a dit l'auditrice, c'est, qu'est-ce qu'on fait de toute cette culture, du cirque, tous ces savoir-faire que les animaux ont, que les gens ont avec leurs animaux, mais c'est irremplaçable. Alors, moi, je pense que ce qui est assez, tragique, c'est que ces positions là comment qui méconnaissent le travail, qui méconnaissent la culture, elles aboutissent effectivement à une rupture de nos liens avec les animaux et à un monde de plus en plus artificiel. Quand on dit qu'on va remplacer les animaux dans les cirques par des hologrammes, on va remplacer la viande par de la viande in vitro, on va remplacer les chiens par des robots, et jusqu'où on va aller comme ça dans un monde déshumanisé? Parce que si on enlève les animaux, faut bien, moi je pense que c'est faut le comprendre, on se déshumanise, notre humanité elle est faite aussi avec les animaux.
Éric Diard, moi, si je veux pousser le raisonnement de Jocelyne Porcher jusqu'au bout, un chien à la maison, un chien domestique, au fond, on n'a rien demandé non plus. Alors, je fais exprès de pousser le bouchon un peu loin, mais je voudrais prolonger sur ce qu'elle vient de dire. Est-ce que le risque, au fond, à un moment, c'est pas de sortir l'animal de nos vies, en fait, comme Jocelyne Porcher vient de le démontrer, de l'expliquer?
Non, nous sommes à des années-lumière, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, moi, je distingue quand même l'animal de cirque.
Malheureusement, quand même, vous dites.
Je distingue l'animal de cirque qu'un animal de divertissement, et l'animal, à la rigueur. Mais bon, encore, les animaux ne servent de moins en moins aux fermes. Dans les fermes, c'est robotisé. Mais au jour d'aujourd'hui, l'animal, il y a toujours de la maltraitance animale. Moi, je suis pour, j'ai toujours défendu la cause animale. Et pour moi, le respect de la vie est un principe fondamental, quelle que soit la vie. Qui sommes-nous les hommes pour dire nous avons droit de vie ou de mort sur les animaux? Un peu d'humilité, rappelons-nous que si on réduisait l'existence de la Terre, j'allais dire, à 24 heures, l'arrivée de l'homme est dans les 5 dernières secondes de ces 24 heures. Donc, nous sommes des animaux qui avons évolué, nous sommes plus intelligents. Est-ce que pour autant, nous devons faire souffrir et tuer tous les animaux?
Et alors, je comprends ce que vous dites. Après, la question que je me pose, et en écoutant y compris ce qui vient d'être dit avant dans cette émission, comment on fait pour déterminer de quels animaux on parle et dans quelles conditions? Encore une fois, j'ai envie de vous reposer la question. Quelle est la différence entre un tigre à qui on impose des choses et un cheval à qui on impose des choses? Et au fond, un chien, qui est aussi un animal de compagnie, qu'on fait sauter sur des petites barricades pendant des concours, par exemple, et qui n'a pas l'air particulièrement malheureux. C'est quoi la différence? Comment on fait pour hiérarchiser ces choses-là?
Je vous l'ai dit, déjà hiérarchiser. Premièrement, par exemple, il y a des chiens, il y a des chiens guides d'aveugles, des chiens qui servent justement à détecter la drogue. Ces animaux-là sont un atout irremplaçable. Et je rappelle que ça fait quand même longtemps que le chien est Et le chat est introduit dans les foyers français. On ne vit pas avec un lion, on ne vit pas un éléphant. Ils appartiennent à un autre continent.
Je voudrais qu'on écoute Frédéric et forcément on va aller du côté des agriculteurs ce soir. Bonsoir Frédéric, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir aux invités. Donc moi, je rejoins beaucoup Jocelyne Porcher là, par rapport au sentiment. Nous, on a vraiment... Alors moi, c'est le rural profond qui vous parle. J'ai l'impression qu'on a vraiment l'impression que les animalistes sont souvent des citadins et qui sont très, très loin des préoccupations de nous, les ruraux. Ils nous prennent souvent pour des demeurés, on a l'impression. L'élevage fait vraiment partie de notre vie et ça fait vivre beaucoup de gens. Nous, dans nos campagnes, tout le monde vit de l'élevage. Et quand on est éleveur, c'est vraiment difficile tous les jours de accuser de tortionnaires, de maltraitants. Parfois même, ça va jusqu'à la référence à la Shoah. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller. Mais ça devient de la folie, quoi. Et c'est vraiment difficile à nous pour vivre ça tous les jours. Parce qu'en tant qu'éleveur, si on ne respecte pas les animaux, ça ne peut pas marcher. Les animaux, ils le sentent bien et ils nous le rendent bien. Et puis, et en plus, je voulais juste rajouter que les zones d'élevage sont très, très riches en biodiversité. On a des sols vivants, on a encore des zones humides, des haies, et s'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus tout ça.
Frédéric,
je rajoute,
allez-y, je vous en prie.
Comment faire du maraîchage bio sans matière organique animale, donc sans l'élevage? Et l'élevage entretient aussi beaucoup les paysages. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Mais je vous remercie pour cette question, pour cette intervention, Frédéric. Jocelyne Porcher, j'imagine que vous allez évidemment dans le sens de Frédéric qui nous appelle de la Loire, et notamment sur le fait que il y a une vraie utilité. Évidemment, il parlait à l'instant de la méconnaissance qu'il peut y avoir. Est-ce que ce trou-là, vous avez l'impression qu'il se creuse entre, on va dire, les villes et les urbains, les villes et les campagnes, Jocelyne Porcher, notamment sur la question animale, est-ce qu'on se connaît de moins en moins, en fait ?
Oui, je pense qu'effectivement, c'est clair que les urbains ne connaissent pas beaucoup les animaux de ferme, et pas seulement. Je crois qu'il y a une méconnaissance des animaux globalement. Mais pour faire suite à ce que vient de dire Frédéric... Je voudrais quand même faire une différence par rapport à ce que ressentent les urbains entre les systèmes de production animale industrielle où il y a une maltraitance institutionnelle, on va dire, c'est l'organisation du travail qui est violente envers les animaux, c'est les systèmes industriels porcins, avicoles, etc., et l'élevage en tant que voilà rapport historique de travail aux animaux où les animaux sont bien effectivement respectés, les éleveurs produisent des choses bien, il y a un rapport effectivement respectueux et positif à la nature, etc. C'est quand même là, ce qu'on appelle élevage, c'est quand même deux mondes très différents. Et donc, c'est vrai que moi, quand je dis élevage, c'est à l'élevage que je pense, au fait d'élever les animaux, et non pas de les produire dans des systèmes industriels. Alors, pour ce qui concerne... Mais c'est important de faire la différence, parce que le rapport à l'animal n'est pas du tout le même dans un cas et dans l'autre.
Éric Dier, on entend un bruit derrière vous. Jocelyne Porcher, je ne sais pas ce que c'est, on a l'impression que quelqu'un tambourine à votre porte. Éric Dier, on a l'impression d'une méconnaissance, au moins un minima d'une méconnaissance, en tout cas de ce monde-là. C'est ce que disent aussi les agriculteurs quand ils parlent d'agribashing. On écoutera Yann tout à l'heure dans un instant qui nous attend au 01 45 24 7000.
Moi, je m'inscris un peu en faux. Il faut arrêter, il faut dépassionner le débat. J'allais dire, moi, j'ai vécu en ville, mais pas complètement en ville. Tous les étés, je passais à la campagne. J'ai pas une méconnaissance, et j'aimerais qu'on sorte de cette vision manichéenne et d'opposer sans cesse le bien-être animal et le bien-être des éleveurs. Ça peut aller de pair. Ça me rappelle une époque où lorsque on disait il faut s'occuper de l'écologie, oulala, on s'oppose au développement économique. On est dans le même cas.
Mais vous avez compris ce qu'il nous a dit, Frédéric. Lui, il est éleveur. Il y a une différence entre être éleveur, avoir ces animaux-là, et faire de l'élevage industriel, et donc des passages aux abattoirs qui sont extrêmement complexes, etc. Est-ce que vous dites, par exemple, oui, un éleveur comme Frédéric, même si je sais que ces animaux finiront à l'abattoir, ça, évidemment qu'il faut continuer et même protéger ces élevages-là. Ou est-ce qu'il faut, faire une croix aussi là-dessus?
Mais écoutez, c'est évident que les personnes, les consommateurs, voudront de plus en plus connaître les conditions d'élevage et d'abattage aussi des animaux. L'un ne peut pas aller sur l'autre sans l'autre. Moi, vous me dites, c'est très bien d'élever l'animal. Après, on s'occupe pas de l'abattage. Moi, nous, quand on a voulu mettre un abattage avec vidéosurveillance, même dans la majorité, il y a eu une opposition.
Et des progrès considérables ont été faits de ce point de vue-là, en partie grâce aux associations d'ailleurs et grâce à sa vidéo-là. Mais j'ai envie de vous reposer la question, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a les éleveurs industriels, la manière dont les animaux sont abattus, et puis il y a les gens comme Frédéric qui sont deux mondes complètement différents et un rapport à l'animal qui est aussi extrêmement différent pour quelqu'un comme Frédéric ou quelqu'un qui aurait une ferme industrielle?
Oui, ce sont deux mondes différents, mais il faut pas oublier quand même qu'on est dans un pays, dans un monde où il y a une démographie croissance, et j'ai du mal à croire que c'est l'éleveur, j'allais dire, artisanal qui se développe. Malheureusement, les fermes gigantesques continuent à perdurer, et ça, je le déplore.
Yann, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Yann.
Oui, moi je suis éleveur de porcs en plein air, donc je suis un peu embêté par le double discours qu'on entend sur les politiques. Ouais, bon, j'ai porc vu dehors, j'ai voulu arrêter de castrer, parce que c'est quand même une souffrance pour l'animal, mais aussi pour l'éleveur qui le fait.
La fameuse castration à vif.
Oui, la fameuse castration à vif. Et maintenant, on se retrouve, moi j'ai mes porcs maintenant, quoi, là j'ai été amené à l'abattoir, mais les bouchers ou la coopérative n'en veut pas parce qu'ils sont entiers. Donc on a un discours, j'ai entendu votre ministre il n'y a pas longtemps dire que la castration va être interdite. Mais malheureusement, si on ne castre pas, on ne peut pas vendre ses porcelets à des gens qui engraissent, on ne peut pas vendre ses porcelets à des cochons, parce qu'il y a très peu d'acheteurs pour des cochons, des mâles entiers, pour des raisons un peu obscures d'odeur ou de... Donc c'est ça, et puis je parle pas des... Moi j'élève des cochons dehors, et puis même en bio, bientôt on va nous mettre des normes de sécurité et de clôture, où il faut fermer les portes. On nous pousse à enfermer les cochons, quasiment tous les animaux, on les enferme, à pas les mettre dehors. Donc il y a le discours, mettez vos animaux dehors pour le bien-être, pour la diversité, et il y a la réalité... Ou comment nous, éleveurs, on fait pour vendre nos produits si on veut être pour le bien-être animal.
Jocelyne Porcher, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur ce double discours, effectivement, que dénonce Yann, où d'un côté, oui, lui voudrait bien faire les choses différemment, et en même temps, le marché, en gros, le pousse ailleurs. Est-ce qu'on peut réconcilier ça ou pas?
C'est-à-dire, c'est vrai que de toute façon, pour être éleveur aujourd'hui, pour être un éleveur qui travaille en fonction de son sens moral et de ce qu'il désire, c'est très difficile. Les contraintes administratives sont très fortes. Et là, ce que dit Yann, c'est particulièrement problématique, parce qu'effectivement, on donne des injonctions au respect avec les animaux, et puis en même temps on empêche les éleveurs de faire ce qu'il faudrait faire. Alors c'est vrai par exemple pour la bio, les bio, il y a beaucoup d'agriculteurs bio qui n'ont pas reçu les primes qu'ils devaient recevoir, etc. Donc ils sont dans des difficultés financières. Puis il y a quelque chose sur quoi je travaille qui est vrai aussi, c'est l'abattage à la ferme ou l'abattage dans d'autres types que les grands abattoirs. Dès qu'on veut faire ou le puçage des animaux, enfin il y a un éleveur américain qui a écrit un livre qui s'appelle « Tout ce que je veux faire de bien est interdit », et ben c'est vrai, la plupart du temps, tout ce que les éleveurs veulent faire de bien, c'est interdit.
Je vous ai vu, Eric Dier, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais qu'on enchaîne avec Jérémy, qui est éleveur lui aussi, comme ça on pourra boucler autour de ça. Allez-y Jérémy.
Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que du coup, en effet, j'ai été éleveur pendant 2 ans, donc j'étais ouvrier dans une ferme laitière. Et en fait, nous, avec les vaches, on avait une relation assez intime, c'est-à-dire qu'en fait, on les connaissait toutes par cœur. Moi, j'avais 48 têtes, je m'occupais de 48 têtes, je les connaissais toutes, je connaissais tous leurs numéros. Je savais quand elles étaient malades, quand on détectait le moindre problème, que ça soit au sabot ou une mamite, par exemple. Et en fait, c'est vrai que ce type d'élevage, en fait, ça fonctionne bien. Alors c'est vrai qu'on exploite ces animaux parce qu'on produit on produit du lait, en fait, tout simplement. Mais on est attentionné. Et c'est vrai que tous ces discours qui parlent d'esclavage des animaux, je trouve ça un petit peu exagéré. Et je pense que c'est pas la réalité. Après, il y a bien sûr des élevages industriels qui sont complètement dingues. Mais là, je suis pas. Il faut savoir que ça existe des élevages tout à fait cohérents et respectueux des animaux. Et voilà.
Eric, merci beaucoup pour votre témoignage, Jérémy. Eric Diard, moi, je voudrais savoir comment on arrive à réconcilier ça, en fait. À se dire que oui, on a tous changé de très collectivement dans ce pays, en Europe et ailleurs, sur notre relation aux animaux, probablement. Il y a un respect de l'animal qui est très différent aujourd'hui. Il y a des vidéos qu'on a vues dans les abattoirs, des choses qu'on n'a pas envie de voir et qu'on n'a pas envie de manger non plus. Mais comment on fait pour pas mettre tout le monde dans le même panier? Et y compris, là, cet éleveur et ses 48 vaches.
Mais déjà, en pointant du doigt, les mauvais élèves, si vous me permettez l'expression. Je reviens sur l'exemple de la castration des porcelets à vif. J'entends tout à fait, c'est pas aux éleveurs. J'ai vu les images d'une castration de porcelets à vif. C'est horrible. Est-ce que c'est à ces personnes qui sont pas formées pour de faire ça, comme si on découpait des champignons, quoi. Excusez-moi l'expression. Donc il faut les aider. Il y a un process qui se mettrait en place de stérilisation. Qui pourrait être... Donc après, il faut que avoir du courage. Si on veut distinguer, j'allais dire, les bons éleveurs qui et les éleveurs et des éleveurs industriels, des éleveurs qui maltraitent les animaux, il faut quand même avoir le courage de dénoncer ceux qui font mal le travail.
Mais qui doit avoir du courage si c'est pas le politique? Ça nous revient à l'essence de notre sujet. Moi, si l'animal est politique, celui qui doit avoir le courage,
le premier qui doit avoir du courage, c'est Didier Guillaume. Qui recule sans cesse ces mesures. Alors je préférerais que le ministre de la Condition Animale soit plutôt du côté de la ministre de l'Environnement comme Madame
Borne. Alors il n'est pas ministre de la Condition Animale, mais c'est peut-être que vous souhaiteriez...
Non, c'est le ministre
de l'Agriculture.
Mais le ministre de l'Agriculture est en charge de la Condition Animale, voilà. et non pas Madame Borne. Donc il n'a pas une appétence particulière pour la Condition Animale, je le déplore. J'entends qu'il défende les agriculteurs, c'est très bien.
Vous annoncez des mesures qui étaient prévues en novembre et puis on n'est pas sûr.
Elles sont sans cesse reculer. Moi, je peux vous dire qu'il y a deux ans, m'avait dit Nicolas Hulot prendra des mesures pour le bien-être animal. Moi, je dis que le bien-être animal et le bien-être des éleveurs, ça peut aller ensemble.
Jean-Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Pardon de vous avoir fait patienter si longtemps, Jean-Philippe. On vous écoute.
Bonsoir. Merci en tout cas de me laisser la parole. Et puis, je vais pas revenir sur tous les propos qui ont été tenus, surtout de la part de Jocelyne Porcher, avec beaucoup d'erreurs concernant notamment la reconnaissance des animaux dans les cirques et la vie partagée. Ce serait quasiment idyllique. Mais Éric Diard l'a très bien dit, il faut quand même recentrer le débat côté politique, puisque c'était l'objet de votre émission ce soir. C'est-à-dire que nous, on souhaite quand même que le ministère de l'Agriculture soit séparé du ministère.
Pardon, mais Jean-Philippe, c'est qui...
Parce que moi, je suis membre du bureau du Parti Animaliste, membre du bureau Paris-Île-de-France, et donc on souhaite au Parti Animaliste que le ministère de l'Agriculture soit totalement séparé et qu'on ait un ministère de la Protection Animale à proprement parler, puisque effectivement Didier Guillaume est le ministre de l'Agriculture, et il est celui aussi du bien-être animal. Alors quand on voit qu'il assiste à des corridas en plein été, on peut penser qu'il y a quand même conflit entre ces deux éléments-là. Donc l'animal est bien politique, puisque dans les derniers sondages qui sont parus, ça intéresse 8% de la population, et on voit avec l'intérêt grandissant pour le Parti Animaliste et notamment à l'approche des municipales, on voit que certaines j'allais dire chapelles politiques se rapprochent effectivement de nous et essayent d'intégrer dans leur programme, et ça c'est une bonne chose, des points que nous énonçons. Voilà en ce qui concerne cet élément-là. Et puis ensuite effectivement au niveau on pourrait revenir sur les cirques, mais l'objectif effectivement c'est d'interdire les cirques avec les animaux, mais pas forcément les animaux sauvages, mais tous les animaux, et de prendre en charge dans des sanctuaires des refuges, les animaux qui sont retirés des cirques. Il n'est pas question de laisser les animaux, je ne sais quoi.
Ah bah ça, j'imaginais bien que vous n'alliez pas les mettre dans la rue.
Voilà, mais on a l'impression parfois, certaines personnes qui sont intervenues par rapport à ça, on a l'impression que les animalistes font tout et n'importe quoi. Ce n'est pas le cas. Nous sommes très sérieux. On a un programme qu'on peut retrouver sur notre site, sur parti-animaliste.fr. On a un programme très précis. L'objectif, c'est pas non plus de tout interdire. L'objectif, c'est d'évoluer vers le plus de bien-être animal. Et voilà, donc, il y a, en Europe, par exemple, on l'a vu, puisqu'on a fait un très bon score au niveau des Européens.
Rapidement, Jean-Philippe, si vous le permettez.
Oui, il y a des pays qui ont pris des décisions, qui ont interdit les cirques avec animaux. On est un des rares pays européens encore à prendre très peu de décisions pour la protection animale.
Merci. Donc ça, c'est...
C'est quelque chose qui doit changer. Je voudrais juste terminer, puisque je pense que j'ai terminé avec mon temps de parole, dire une dernière chose. L'ours Micha est mort hier à la tanière zoo-refuge. Il était en captivité depuis des années. Les Poliakov le tenaient en captivité. Toutes les associations ont dénoncé cela. Et on souhaite, et là je remercie toutes les associations et tous ceux qui, dans les médias, relaient
ça. Et on l'a vu, en effet, Jean-Philippe, merci beaucoup. Pardon de vous interrompre, mais en même temps, voilà, il faut que chacun puisse s'exprimer à son tour. Je suis une Porcher, moi je voudrais savoir ce que quand on entend, et on ne l'entend pas seulement là d'ailleurs, je l'ai lu ici et là, qu'il faudrait un secrétariat d'État ou quasiment un ministère accroché à la protection animale, est-ce que ça vous semble être une bonne idée ou au contraire, déconnecter la protection animale au fond d'un ministère de l'Agriculture serait une erreur?
Là, je ne saurais pas répondre tout de suite, mais ce que je pense en tout cas, c'est que qu'est-ce que c'est que, parce que moi, je pense que le parti animaliste, c'est pas un parti politique, il fait pas rentrer les animaux en politique. Au contraire, le parti animaliste, il dépolitise la question animale en centrant les conditions de vie des animaux sur les animaux eux-mêmes, alors qu'un animal domestique tout seul, ça n'existe pas. Un animal domestique, un animal même sauvage apprivoisé, il est en relation avec des humains. Donc, c'est pas l'animal tout seul qui est en question, c'est l'animal dans sa relation avec l'humain, avec les humains, et dans sa relation au travail. Donc, en fait, politiser la question des animaux avec nous, c'est interroger leur place dans les rapports sociaux, interroger les conditions de travail et de vie au travail. C'est ça. Alors, ce que je disais tout à l'heure, là, effectivement, avec l'idée que les animaux travaillent. Etc. Donc après, moi, ce que je me demande, là, dans ce qui vient d'être dit, c'est qui va payer? C'est parce que c'est quand même ça. Les refuges, c'est bien. Si un refuge peut faire de l'élevage des animaux sans emmener les animaux ni les tuer, c'est parce qu'il a des fonds qui lui arrivent. Donc il y a toujours quelqu'un qui paye, je veux dire, pour entretenir les animaux. Et puis d'autre part, je pense que la vie avec les animaux, notre vie avec les animaux domestiques notamment, c'est un projet de société. Donc ça peut pas le projet de société qu'on a avec les animaux, il peut pas être séparé d'un projet de société global. C'est impossible. Voilà.
Et au fond, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure du ministère, l'idée d'avoir quelque chose de parfaitement déconnecté du monde dans lequel, en général, les animaux évoluent. En fait, c'était le sens de ma question.
Oui. Bah, alors à ce moment-là, si je devais répondre, ouais. Je dirais qu'il faudrait quelque chose de dédié à la relation, aux relations entre humains et animaux, et non pas seulement à l'animal. Parce que ce qui l'animal domestique n'existe que dans la relation avec nous. Donc ça, c'est ridicule, quoi, de dire. Parce que là, en fait, ceux qui s'occupent des animaux, c'est la personne qu'on vient d'entendre. Mais cette personne a quelle compétence, quelle légitimité? Est-ce que les animaux lui ont donné mandat de parler pour eux? Non. Donc, je pense que c'est vraiment la relation entre humains et animaux qui doit être l'objet d'une réflexion politique et de l'investissement effectivement politique. Mais parce que cette relation, je le redis, elle est construite par le travail. Le travail, c'est la question politique par excellence, évidemment, dans nos sociétés.
Jérémy Guerre, je vous ai vu faire le geste, mais ça marche aussi dans
l'autre
sens.
Ça marche dans l'autre sens, bien évidemment. C'est-à-dire, ben voilà, les animaux n'ont pas demandé, mais nous, on ne demande pas à l'homme. Je veux dire, moi, je ne vois pas simplement l'animal autour du prisme du travail, loin de là. Je pense qu'il faut un secrétaire d'État rattaché à la condition animale.
Ce que dit Jocelyne Porcher, c'est que l'animal n'existe que dans sa relation à l'homme, et quelle que soit cette relation, en fait, qui n'est pas forcément une mauvaise relation. Est-ce que, oui, l'animal peut exister indépendamment de sa relation à l'homme? La oui. réponse est oui, pour oui. vous? C'est-à-dire quel genre d'animal peut exister indépendamment de la relation à l'homme? Je ne comprends pas très bien, moi aussi, comment c'est possible, en fait. Non, Éric Guerre, vous voulez parler?
Écoutez, moi, je reste un peu interloqué. L'animal domestique, non, mais
c'est pas forcément une mauvaise chose. Les animaux sont soit domestiqués, soit
sauvages,
utilisés, etc.
Non, mais il y a des animaux qui vivent sans l'homme.
Tous les animaux qu'on a sur notre territoire, ou la plupart,
on va dire. Je le rappelle, les animaux sont arrivés avant l'homme. Il y a les animaux, ils se sont très bien passés des hommes. Alors il y a les animaux domestiques. Je reviens sur le sujet. Je pense qu'il est important d'avoir un secrétariat d'État à la condition animale, rattaché au ministère de l'Environnement. D'accord. Et pas au ministère de l'Agriculture. Je vous donne un exemple. La loi Egalim, qui a été pour moi un vaste fiasco, puisqu'il y avait une loi sur les agriculteurs avec au milieu un article 13 sur le bien-être animal où rien n'a abouti et ça a été un échec total.
François, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. Voilà, moi, je voudrais dire la chose suivante. J'entends bien les animaux domestiques, les animaux de cirque. Ça, ce sont des problèmes qui peuvent se régler facilement. Les animaux de cirque, on les laisse progressivement s'éteindre. Et puis, la question, en disant que c'est interdit, se résoudra d'elle-même. Ça me paraît pas très compliqué, ni très important comme problème. Par contre, la souffrance animale qui existe réellement va de pair avec la pas du gain. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où toujours plus d'argent provoque toujours plus de souffrance pour les animaux. Et tant que l'on ne changera pas ce système économique avec les fermes à mille vaches, avec les élevages de poulets par milliers dans des espaces toujours plus réduits parce que plus rentables, eh bien là, c'est cette souffrance animale-là, tant qu'on ne dira pas qu'elle est liée à la pas du gain, à la cupidité de certains, et qu'on ne changera pas ces politiques-là, un débat comme le nôtre, là, que celui qui se déroule ce soir, et qui se justifie, hein, entendons-nous bien. Mais pour moi, me paraît très dérisoire si l'on ne met pas l'accent surtout sur ça. Parce que alors là, le débat sur les chiens, les chats, les animaux de cirque, qui encore une fois peuvent s'éteindre, mourir de leur belle mort de vieillesse, bien traités, et puis quand ils seront morts, on les remplacera pas. Je vois pas où est le problème. Les chats, les chiens dépendent beaucoup aussi des hommes et des gens et des femmes qui les aiment et qui les traitent bien. Ça me paraît, sauf quelques cas ponctuels des animaux abandonnés pendant les vacances, etc. Tout ça, on peut aussi intervenir là-dessus. Mais les animaux qui souffrent parce que l'on gagne de l'argent sur leur souffrance, c'est ça qu'il faudrait changer. Mais c'est un vaste problème de société aussi.
Merci beaucoup, voilà. François. Ce sera la phrase de conclusion pour chacun. Jocelyne Porcher, est-ce que conditions animales et système économique, au fond, sont très très liés l'un à l'autre ?
Oui, tout à fait. Mais c'est le sujet de mon dernier ouvrage, là. C'est-à-dire que, effectivement, notre relation aux animaux, elle est construite par le système économique dans lequel on vit, par le système capitaliste, où l'argent, effectivement, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Ce qui va conduire, d'ailleurs, à, si l'on veut pas, changer nos relations aux animaux, eh ben, ça va conduire à les exclure de la société. Et dans ce système capitaliste, à les remplacer, par exemple, par de la viande in vitro. Donc, c'est pourquoi cette question de la relation aux animaux, elle est réellement politique. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre avec les animaux, comment on vit ensemble, comment on vit ensemble entre nous, en sachant que vivre ensemble entre humains, c'est aussi c'est de la même façon qu'on vit ensemble avec les animaux. Quand dans les porcheries industrielles, il y a des humains, il y a des animaux. Donc, si on veut sortir les animaux des systèmes industriels, il faut sortir les humains, il faut construire un autre projet de société, un autre projet agricole et un autre projet de vie avec les animaux.
Éric Diard, merci beaucoup. Jocelyne Porcher, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez rejoindre Jocelyne Porcher
là-dessus ? Absolument pas, je trouve ces propos surréalistes. L'animal est un être sensible et l'animal n'est pas simplement de la viande pour être manger, l'animal ne doit plus relever...
Ah, c'est pas ce qu'elle dit.
J'entends la viande, l'animal doit relever non plus du régime des biens, non pas celui des personnes, mais je pense qu'il y a un espace entre... L'animal n'est pas un meuble, c'est pas une personne, mais c'est un être sensible. Certains sont dotés d'une grande intelligence et d'une grande conscience.
Et vous voyez une relation aussi avec le système économique et la manière dont il est fait aujourd'hui.
Mais bien sûr, je veux dire, moi... Je suis contre l'exploitation de l'animal, au niveau économique.
Et on l'a compris. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien tout de suite.